Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Djamila Topin.
À la une de l'actualité, insécurité au Burkina, des soldats et des VDP tendent une embuscade et abattent 11 présumés terroristes à Gisengori dans le Sahel. Annonce faite par l'état-major général des armées dans un communiqué. Monique Yelikam demande le départ de l'ambassadeur de France au Burkina sans condition et avec effet immédiat. Elle a signifié dans une déclaration rendue publique ce mardi. Et la destruction des ponts et des ouvrages de franchissement par les groupes armés terroristes pourrait présager des attaques de grande envergure. C'est ce que pense l'analyste et expert en sécurité Mamoudou Sawadogo. Il est l'invité de la rédaction. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information sur Radio Oméga. Sécurité pour débuter ce journal. 11 présumés terroristes ont été abattus dimanche par des soldats et des volontaires pour la défense de la patrie VDP à Gisengori dans la région du Sahel. L'armée et les supplétifs de l'armée ont tendu une embuscade aux terroristes. On fait le point avec Makiam Soma.
11 présumés terroristes ont été abattus dimanche par des soldats et des volontaires pour la défense de la patrie VDP à Gisengori dans la région du Sahel. L'armée et les supplétifs de l'armée ont tendu une embuscade aux terroristes. Le bilan établi par les opérations de ratissage fait état de 11 terroristes abattus selon le communiqué de l'état-major. L'armée explique que c'est en riposte à des actions de harcèlement perpétrées par des terroristes contre les populations de Gisengori dans le Yaga, les unités militaires de Seba en coordination avec les VDP de la localité ont tendu une embuscade aux terroristes lors de leur mouvement retour le 17 juillet 2022. En plus des présumés terroristes neutralisés, également une vingtaine de motos, de l'armement et une importante quantité de munitions ont été récupérées, indique l'armée qui poursuit que des moyens de communication, du carburant et des vivres ont été saisis ou détruits. Le chef d'état-major général des armées a félicité les unités militaires et les VDP pour, dit-il, cette action décisive qui intervient après les succès tactiques enregistrés récemment lors de l'opération conjointe Coural entre le Burkina et le Niger. L'opération en question a permis de neutraliser 56 présumés terroristes selon l'état-major. Lundi, l'armée a annoncé avoir neutralisé au moins 83 présumés terroristes en un mois du 15 juin au 15 juillet 2022 dans des opérations dans la région du Sahel et du centre-nord.
Dans la région de l'Est, la question de l'insécurité est aussi d'actualité. 5 des 6 personnes enlevées mercredi 13 juillet à Baléré dans la province du Gourma ont été libérées par leurs ravisseurs qui ont gardé le 6e exigeant d'abord que son fils quitte les rangs des VDP. On écoute Chalda.
5 des 6 personnes enlevées le mercredi 13 juillet 2022 à Baléré, dans la province du Gourma, ont été libérées par leurs ravisseurs qui ont gardé le 6e, exigeant d'abord que son fils quitte les rangs des VDP. Selon l'agence d'information du Burkina AIB, qui a révélé l'information, parmi les kidnappés, 5 sont maintenant libres de leur mouvement depuis le dimanche 17 juillet 2022. Toutefois, les ravisseurs ont posé des exigences avant de libérer le 6e, indique l'agence qui poursuit. Ils veulent que son fils quitte les rangs des volontaires pour la défense de la patrie VDP et qu'il leur remette son matériel de défense. Pour l'heure, l'agence dit ne pas savoir si le présumé VDP a accédé aux requêtes des agresseurs. Un groupe d'individus armés avec à leur tête des femmes avait enlevé le mercredi 13 juillet dernier 6 hommes au marché de Baléré, localité située entre Fadangourma et Diabo dans la région de l'Est.
Pendant ce temps, Monique Yelikam, candidate malheureuse à la présidentielle de 2020, a demandé ce mardi le départ de l'ambassadeur de France au Burkina sans condition et avec effet immédiat. Elle projette une marche suivie d'un sit-in devant l'ambassade de France à partir du vendredi 12 août à 14h, renouvelable tous les vendredis jusqu'au départ de cet ambassadeur. Lamine Traoré, quelles sont les motivations de telles décisions de Monica?
Des décisions de Monique Yelika motivées suite aux propos de l'ambassadeur de France au Burkina le 14 juillet dernier lors de la commémoration de la fête nationale française. Selon la candidate malheureuse Luc Alad, ambassadeur de France au Burkina Faso n'a pas manqué l'occasion de frustrer davantage le peuple burkinabé avec des propos discourtois, orduriers et anti-diplomatiques. Je n'imagine pas l'ambassadeur du Burkina Faso en France tenir un tel langage contre le peuple français sans que Kossiam ne soit appelé et réprimandé, poursuit-elle. Monsieur Luc Alad s'est trompé d'époque, affirme Madame Kam.
Et quels étaient les propos de l'ambassadeur Lamine Traoré?
Les diplomates français s'en est pris à certains internautes qui accusent sans preuve son pays engagé dans la lutte contre le terrorisme au Sahel à la commémoration de la fête nationale française le 14 juillet dernier. Je regrette que les réseaux sociaux soient devenus à bien des égards des idiots utiles, la caisse de résonance de ceux et celles qui, aveuglés par une haine absurde, nous accusent sans preuve aucune de jouer un double jeu, de vouloir exploiter les richesses du Burkina Faso ou pire encore d'armer les terroristes, avait-il déclaré.
Et donc, Monique Yelikam entend organiser une marche et un sitting tous les vendredis jusqu'au départ de l'ambassadeur français Lamine Traoré.
C'est bien cela. Nous, peuple digne du Burkina Faso, nous, jeunesse burkinabé, qui avons encore une once de fierté, un soupçon de patriotisme et de dignité, nous annonçons une marche suivie d'un sitting devant l'ambassade de France à partir du vendredi 12 août. À 14h, renouvelable tous les vendredis jusqu'au départ de cet ambassadeur. Nous sommes dorénavant des tarots et plus jamais des patates, a déclaré la présidente du MRB, le mouvement pour la renaissance du Burkina, qui dit personnellement avoir reçu beaucoup de menaces. Même ma famille me demande de quitter la scène politique car elle a peur pour ma vie, affirme-t-elle. Comment me taire face au risque de la disparition de mon pays? Comment me taire face à cet oppresseur que j'ai vu vaincre au Mali? Comment être poltronne face à l'oppresseur qui vient me dicter sa loi dans ma propre maison? S'interroge Monique Kam. Pour moi, être une personnalité politique et se taire face à la situation du Burkina actuel, c'est être tout sauf une personnalité politique. Je refuse de transférer mes combats d'aujourd'hui à mes enfants de demain, a indiqué celle qui s'est fait appeler la Yenenga de l'éducation.
La 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou va bel et bien se tenir du 25 février au 4 mars 2023. Le thème retenu pour l'année 2023 est « Cinéma d'Afrique et culture de la paix ». Le comité d'organisation du festival a donné ce matin, lors d'une conférence de presse, l'assurance que la tenue effective de cette édition, il en a décliné les différentes innovations prévues, les explications, avec Valérie Traoré et Abdoul Fattah Tiemtouré.
Le FESPACO aura bel et bien lieu malgré le contexte sécuritaire actuel au Burkina. À 7 mois de la tenue de la 28e édition du rendez-vous des acteurs du 7e art africain, le comité d'organisation présidé par la ministre de la Culture a tenu à rassurer l'opinion. Valérie Kabouré.
Notre pays traverse certes des moments difficiles avec les situations sécuritaires, sanitaires et socio-économiques que vous connaissez. Cependant, je puis vous assurer que le Burkina, de par ses valeurs de détermination, de courage, de ténacité et d'intégrité, mettra tout en œuvre pour offrir une fois de plus aux professionnels du cinéma ainsi qu'aux cinéphiles cet espace de rencontre et d'échange pour le développement de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel.
Des innovations sont annoncées pour cette 28e cuvée du FESPACO. On note par exemple la création d'une section réservée au Burkina Faso. Alex Moussa Sawadogo, délégué général du FESPACO.
Innover avec des choses qui pourront s'adapter avec les besoins ou les aspirations des professionnels. Donc nous allons consolider ces acquis-là, les permettre d'être plus visibles au niveau des professionnels, les permettre aussi à ces professionnels de pouvoir en profiter et de pouvoir donner plus de contenu à ces initiatives-là. Mais bien sûr, pour l'édition 2023, nous aurons le marché de coproduction dont j'ai parlé et tout à l'heure, qui est très important sur le plan, disons, économique et professionnel pour les hommes de cinéma. Et nous avons bien sûr aussi cette porte ouverte que nous voulons dynamiser, et si tout va bien, les plateformes que nous voulons inviter au niveau du FESPACO, et pour que les producteurs, les réalisateurs puissent aussi proposer leur film.
À cette conférence de presse, le comité de sélection pour cette édition a été dévoilé. Pour le FESPACO 2023, la sélection officielle a enregistré 1132 films inscrits, dont 102 films burkinabés avec 409 séances de projection prévues à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Il se déroulera du 25 février au 4 mars 2023 autour du thème « Cinéma d'Afrique et culture de la paix ».
Et après avoir servi la nation burkinabé pendant une trentaine d'années, il faut se reposer. Le laboratoire genre et développement de l'université Joseph Kizerbo a rendu hommage au professeur Fatsumata Badini, professeur titulaire de sociologie à l'université Joseph Kizerbo. La cérémonie d'hommage s'est tenue hier lundi au sein de ladite université en présence de Jean-Paul Ouédraogo.
Après 36 ans de bons et loyaux services pour le rayonnement de la sociologie et des études de genre au Burkina, professeur Fatoumata Badini Nekinda est appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Cette journée d'hommage initiée par le département de sociologie de l'université Joseph Kizerbo s'est donc voulue une occasion pour saluer le parcours et l'œuvre de celle qui est considérée comme une pionnière et une référence aussi bien sur le plan national qu'international. Professeur Valérie Rwamba Ouédraogo, responsable du laboratoire genre et développement.
Professeur Badini Kinda, elle a rendu de grands services au département à travers son engagement pour un enseignement de qualité, pour qu'elle sache qu'elle est une icône pour nous, pour qu'elle sache toute l'immensité de son travail. Elle a su en fait partager avec plusieurs générations sa passion pour la sociologie et sa passion surtout pour les études de genre. Donc, à son départ à la retraite, nous saisissons donc l'occasion pour magnifier cette œuvre scientifique-là et surtout pour lui témoigner toute la reconnaissance de plusieurs générations qui l'ont eu comme modèle.
Des mots de félicitations et de reconnaissance du monde de la sociologie et de la recherche accueillis avec joie et émotion par la célébrée du jour, Fatoumata Badini Nekinda.
Le sentiment qui m'anime aujourd'hui, c'est vraiment le sentiment de joie face à cette reconnaissance que je vis aujourd'hui. Vraiment, c'est une grande surprise que les organisateurs de cette cérémonie m'ont réservée. Donc, j'ai des sentiments de joie, de satisfaction et de savoir effectivement que la trentaine d'années que j'ai passées à l'université a servi à quelque chose.
Retraite méritée, oui, mais pas question de fermer la porte à la recherche ni à la formation. Professeur Fatoumata Badini Kinda s'engage à maintenir son engagement dans les domaines qui rejoignent ses centres d'intérêt. Cette journée d'hommage a été marquée par une conférence publique autour du thème « Genre et sexualité ».
Santé à présent, améliorer la communication dans le milieu médical en période de crise sanitaire et quelles sont les dispositions à prendre pour donner à temps la vraie information aux populations. Ce sont ces rudiments que l'OMS offre à des cadres du ministère de la Santé à Kourougou, compte rendu Sabuna Ouédraogo.
Cette rencontre de Kourougou va permettre aux différents responsables de certaines structures du ministère de la Santé de parler le même langage pendant une crise sanitaire afin de rassurer les populations. Valérie Kabore, ministre en charge de la communication.
Quand on doit rentrer dans un processus ou vulgariser une connaissance du milieu médical, il y a un savant dosage de prise de parole, de technique, et il faut le convenir ensemble entre spécialistes. Et je crois que l'OMS a bien fait de venir appuyer le ministère de la Santé.
L'OMS, justement, reconnaît qu'en cas d'épidémie, de crise sanitaire, la mise en place d'un mécanisme de riposte et la disponibilité des ressources peut prendre du temps. Alors, dans ce cas,
l'élément le plus important qui soit disponible pour la population, c'est l'information.
Docteur Seydou Koulibaly, représentant de l'OMS par intérim au Burkina Faso.
Lorsqu'il y a la bonne information, lorsque les acteurs sont suffisamment capacités, ces acteurs peuvent distiller une information qui permette à la population de prendre des dispositions pour ne serait-ce que mitiguer le risque.
Les dites informations doivent être fiables et données par des spécialistes pour faire barrage aux fausses nouvelles qui sont déversées parfois en période de crise sur le net. Valérie Kabore.
La communication d'une manière générale même doit être organisée, à plus forte raison en période de crise. Quand il y a crise, il y a vraiment beaucoup d'attention à mener pour ne pas dérouter les patients, pour ne pas dérouter même le simple public.
Après cette formation de Koudougou, l'OMS a prévu outiller dans les prochains jours d'autres acteurs du ministère de l'hygiène publique sur des aspects de la communication sanitaire. Sabola Ouedraogo, Koudougou, Radio Omega.
La revue de presse.
La sécurité occupe une grande place dans les parutions du jour. Les quotidiens rapportent notamment les actions de sécurisation du territoire par l'armée. Au plan sous-régional, il y a 7 ans qu'a été signé l'accord d'Alger, censé ramener la paix au Mali, en Guinée. Cela fait un peu plus longtemps, 13 ans aujourd'hui, que les Guinéens attendent que justice soit rendue aux victimes du massacre du stade du 28 septembre. La revue de presse avec Brigitte Yoda.
Pour prévenir le dynamitage des ponts par les groupes armés, les nouvelles autorités coupent la poire en deux. L'armée va renforcer la surveillance, mais avec la participation des populations, titre l'Express du Faso. Dans son bulletin mensuel d'information du 15 juin au 15 juillet, l'armée indique avoir neutralisé plus de 80 terroristes en un mois, peut-on lire à la une du pays qui, par rapport à la situation nationale, rapporte le message de soutien du pape François remis au président du Faso par le nonce apostolique du Burkina. Lutte contre le terrorisme toujours, le quotidien appelle à faire la lumière sur les centaines de milliards affectés au FDS. En moins de 7 ans, c'est un peu plus de 1 500 milliards qui ont été consentis pour la défense et la sécurité. Mais pour quel résultat, s'exclame notre confrère, pour qui, malgré un budget qui gonfle au fil des années, le Burkina Faso peine à apporter une réponse adéquate au terrorisme jusqu'à être qualifié de ventre mou du Sahel. Boala, dans le centre nord, a enregistré sa première attaque terroriste, souligne le doyen des quotidiens. À ces hommes politiques et OSC qui ne font plus mystère de leur ambition de faire barrage à la transition si jamais elles travaillaient à restaurer un ordre ancien, le journal Bobolé dit ceci. Que ce soit les partisans de Blaise Compaoré ou de Rochma Christian Kabore, ils relèvent tous d'un ancien ordre qui apparemment est le même. Appelant à plus de modestie, l'Express du Faso pense qu'il ne revient donc pas à un individu, une formation politique ou un groupe d'individus de décider de ce que veulent les Burkinabés aujourd'hui comme demain. L'observateur Palga jette ensuite un regard sur la mise en œuvre de l'accord d'Alger signé le 15 mai et le 20 juin 2015 à Bamako entre les groupes armés et le pouvoir central. À l'heure du bilan, notre confrère dénonce un jeu de ping-pong qui a assez duré et ne présage rien de bon. 7 ans après, quand ce n'est pas le CMA qui accuse les différents gouvernements maliens d'Ibeka à Goïta en passant par Bandao de mauvaise foi et de parjure, ce sont ces derniers qui crient à des actes attentatoires à la souveraineté nationale et disent constater avec indignation que depuis un moment, la coordination des mouvements de l'Azawad s'arroge des actes régaliens de l'État en violation flagrante des termes de l'accord de paix d'Alger, explique l'Obs. Au sujet du massacre du stade du 28 septembre en Guinée, la justice se profile pour les 192 victimes parties civiles estiment aujourd'hui au Faso. Pour le journal, cela fait 13 années, 13 longues années, que le cauchemar, les insomnies, la colère et souvent la résignation restent prégnantes. 13 années que tout cela dure. Pas très optimiste, aujourd'hui au Faso attend quand même septembre pour constater si ce procès sera une réalité. La Guinée ne doit pas manquer ce rendez-vous, a-t-il conclu.
Et c'est ici que prend fin ce journal réalisé par Adama Konaté. Merci à Ibrahim Niaouné pour la retransmission web. À la présentation, je suis Djamila Setopan. Merci à vous de l'avoir suivi et restez connectés sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct. L'invité du jour. L'invité du jour.
Bonjour Mamoudou Sabadogo.
Bonjour Lamine.
Ces derniers jours, les groupes armés procèdent par la destruction des ouvrages de franchissement sur les voies, pour ne pas dire les ponts. Comment vous analysez cela?
La destruction des ponts et des ouvrages de franchissement pourrait présager des attaques de grande envergure pour les localités qui ont vu leur pont détruit. Cela aussi peut avoir pour objectif de complexifier le déploiement logistique de l'armée qui est en train de se mettre en œuvre pour, dans le cadre des opérations et de la détermination des zones d'intérêt militaire. La troisième hypothèse, c'est empêcher les populations de quitter ces zones d'intérêt militaire afin d'être confondues à la population, donc de mettre encore en difficulté l'armée dans ses manœuvres.
Outre ces infrastructures routières, les groupes armés détruisent aussi les moyens de communication. Dans des localités, il est difficile de passer des coups de fil. Cela aussi fait partie des stratégies de ces groupes.
En plus de ces infrastructures de franchissement qui ont été détruites, nous avons assisté à une destruction systématique au début de l'année 2022 des moyens de communication et aussi d'installations sensibles comme les aérodromes. On a l'exemple de l'aérodrome de Ouaibia. Cela découle de la stratégie des groupes armés terroristes qui les permet d'isoler les communes, d'isoler les villages, afin que les VDP et les forces de défense et de sécurité ne puissent pas intervenir en temps, donc pour empêcher les populations de communiquer avec les VDP et les forces de défense et de sécurité, et aussi pour couper les populations et aussi les villages du reste du monde, ce qui les isole davantage et donc les laisse à la merci de ces groupes armés terroristes.
Comment faut-il faire, Mamoudou Sabadogo, face à la destruction de ces infrastructures?
Ces infrastructures sont appelées des points sensibles, des zones sensibles, alors ils méritent une protection particulière. Dans tout combat, une des stratégies est effectivement la protection des points sensibles. Et il faut impérativement mettre un dispositif de protection autour ou bien sur ces points sensibles pour empêcher la destruction de ces points sensibles, parce que ça peut entraîner et handicaper l'action des forces de défense et de sécurité, et ça peut aussi contraindre les populations à subir les exactions et la violence poussée de ces groupes armés terroristes. D'où la nécessité de prendre soin et d'où la nécessité d'en faire une protection au plus haut degré.
L'armée, elle, demande la collaboration des populations pour protéger ces infrastructures. Est-ce que cela suffit?
Elle ne suffit pas parce que ces populations sont démunies. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'aider la population à protéger ces infrastructures. Il faut une présence marquée de l'armée. Il faut sensibiliser les populations. Ce que les populations peuvent faire en aidant l'armée, c'est de donner l'information lorsque ces groupes armés sont en train d'installer des JD, des mines pour faire exploser le pont. Ces populations, lorsqu'elles signalent aussi, s'exposent à la vindicte de ces groupes armés. Donc, la seule solution, ou bien la solution la plus pérenne ou l'idéale, c'est effectivement une présence marquée des forces de défense et de sécurité, et afin d'empêcher les groupes armés d'isoler deux villes ou deux communautés.
L'armée a interdit la circulation des motos dans certaines zones. Est-ce que cela est un moyen efficace pour lutter contre ce phénomène?
Selon moi, l'interdiction de circuler va complexifier davantage l'alerte même des populations et va complexifier davantage la situation de vie des populations, parce que c'est le seul moyen par lequel ils arrivent effectivement à atteindre les villes pour pouvoir se ravitailler et aussi pouvoir se soigner. Et aussi, c'est le seul moyen par lequel aujourd'hui ils peuvent alerter les forces de défense et de sécurité, étant donné que les moyens de communication sont coupés par endroits, et étant donné aussi qu'ils commencent à couper les infrastructures routières. Donc il n'y a qu'avec les motos qu'on puisse peut-être passer à travers un pont qui est cassé, ou avec les motos qu'on peut atteindre une ville pour signaler leur présence. Donc ça risque d'être contre-productif si toutefois on n'empêche pas aussi les groupes armés terroristes de circuler et de venir agresser les populations.
Merci Mamoudou Sabadogo.
Merci Lamine.
C'était l'invité de la rédaction.